Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles aujourd'hui, l'accueil d'un enfant migrant dans son foyer. Témoignage de Maguelone, un témoignage très fort, très puissant, que vous allez entendre dans un instant. C'est parti!
Ce matin va vous prouver que cette tradition d'accueil, elle n'est pas morte, loin de là, et on espère que ça va surtout, je ne sais pas pourquoi pas, vous inspirer, vous donner envie de suivre l'exemple de Maguelone. Bonjour, merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Alors Maguelone, vous êtes maman solo d'Ilia, qui a 13 ans, et depuis un an, vous hébergez régulièrement des mineurs non accompagnés. On appelait ça autrefois des mineurs isolés, maintenant ça a changé de nom. En fait, ce sont tous des enfants, des adolescents qui ont quitté leur pays et leur famille, souvent au péril de leur vie. Donc ils ont des histoires bien sûr très difficiles et ils arrivent dans notre pays pour trouver a priori une vie meilleure et c'est pas toujours facile. Alors comment c'est venu cette idée, Maguelone, d'accueillir des mineurs chez vous comme ça?
Écoutez, pendant des années, je suis passée devant... J'allais travailler en passant à Porte de la Chapelle devant des camps, des campements de migrants et je me disais chaque matin, mais comment fait-on pour tolérer ça,
pour tolérer, oui, pour passer devant ça,
pour tolérer ça, et voilà, et en allant ensuite travailler tranquillement et sans faire un geste. Et puis bon, j'avais trop de travail, c'était trop compliqué. Et puis j'ai changé de conditions de vie, j'ai eu plus de temps et il se trouve que j'ai une grande maison, que j'avais une chambre libre. Et un jour, sur Facebook, sur mon mur, est apparue, je ne sais pas par quel biais, une annonce d'une association qui s'appelle Latimi et qui disait « Vous avez de la place, vous avez envie d'accueillir quelqu'un, vous pouvez le faire 3 jours, une semaine, 15 jours, comme vous voulez, contactez-nous. » Et j'ai pris mon téléphone et voilà, et j'ai contacté Latimi.
Ah, vous en avez parlé, j'imagine, avec Ilia quand même d'abord? Ça a dû faire partie quand même d'une conversation à deux, quoi. C'est une décision que vous avez prise à deux.
Oui, c'est ça. Alors, je lui ai dit, écoute, voilà, est-ce que ça te dit qu'on héberge des jeunes? Alors, l'association recommandait d'accueillir, si c'était possible, évidemment, deux jeunes en même temps, pour qu'ils soient moins intimidés, qu'ils aient quand même des repères, quoi. Et bon, voilà. Donc, j'avais dit à Ilia, écoute, est-ce que ça te va? Et au début, il tiquait un peu. Il me disait, il voyait pas trop, il était un peu intimidé. Il m'a dit, bon, écoute, si c'est quelques jours, ça va. Et puis bon, voilà. Donc c'est comme ça que Moussa et Mohamedi, qui étaient deux Maliens, enfin qui sont toujours deux Maliens, sont arrivés à la maison.
Eux, ils étaient copains déjà?
Ils s'étaient rencontrés sous le périph à Porte des Lilas, où ils avaient vécu. Ils étaient arrivés en France par deux biais différents. Et c'était des compagnons de fortune, quoi. Où ils ont passé plusieurs semaines. Il faisait très froid, en plus, à cette époque-là. Je crois qu'ils sont arrivés en novembre en France. Et ils ont été pris en charge. Parce que, heureusement, en France, il y a des associations formidables. Ça, j'ai découvert ça. Et du coup, de fil en aiguille, ils sont arrivés à Latimi, donc. Et un jour, les filles de Latimi leur ont dit, écoutez, voilà... On vous amène à Montreuil, chez Ilia et Maguelone.
La première soirée, tous les quatre, comment ça s'est passé? Ça devait être intimidant, non, quand même?
La première soirée, c'était pas simple. Parce qu'ils sont arrivés donc, avec une bénévole de l'association.
Ils sont censés rester combien de temps quand ils arrivent comme ça?
Justement, c'est ça qui est formidable avec Latimi, c'est que c'est comme l'hébergeur veut.
C'est ça, d'accord.
Tu peux, au bout de 3 jours, dire, c'était sympa, mais merci. Donc au départ, on s'était dit une semaine. Donc ils arrivent, eux-mêmes étaient très intimidés. J'avais fait première petite bévue, j'avais fait une quiche et j'avais mis des lardons. Ils sont tous les deux musulmans, donc déjà j'ai fait un flop avec ma quiche. Ensuite, il y en avait un des deux qui parlait pas très bien français, l'autre un peu plus. Mais ils étaient quand même très intimidés, donc c'était pas franchement la fluidité ce jour-là. Bon, et puis ensuite, la jeune femme de l'association est partie, je leur ai présenté leur chambre, et puis les choses sont devenues plus naturelles au fil des jours, mais au début, c'était un peu crispé, quoi.
Je comprends. Et ils ont réussi quand même à s'intégrer un peu dans votre quotidien? Comment ça s'est passé au fur et à mesure?
Oui, très facilement, parce que, en fait, moi, je me suis pas du tout mis de pression. je me suis dit, je continue à vivre comme je vis. Ils ont un espace, ils avaient une salle de bain, parce que j'ai la chance d'avoir deux salles d'eau, donc ils avaient une salle de bain à part, leur chambre, ils dormaient tous les deux dans la chambre. Et puis, écoutez, oui, ça s'est fait vraiment naturellement. Mohamed dit cuisine très bien, donc il s'est mis à nous cuisiner des plats africains. Moi, c'était parfait parce que j'ai beaucoup de travail. Donc, quand je revenais souvent, comme ils avaient du temps, en fait, il avait coupé les légumes. Et
la cuisine, ça rassemble, quoi. Ah, c'est chaleureux.
La cuisine, c'est formidable. Ouais, ouais.
Ça, c'est super. Ouais. C'est vrai que c'est un bon point d'accroche, quoi. Oui. C'est pas mal.
Ouais.
Et alors, donc, vous avez dit que le deal, c'était une semaine au début. Et puis après, au bout de la première semaine, alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
En fait, c'est presque venu d'Ilia. C'est-à-dire que mon fils m'a dit, mais maman, on ne va pas les laisser repartir comme ça. Parce que bon, malgré tout, tu finis par apprendre. C'est assez pudique, on a des rapports assez pudiques. Ils ne te racontent pas d'emblée leur histoire. Mais tu comprends quand même qu'ils ont vécu pour des minots. Parce qu'ils ont, bon, je ne sais pas, 16, 17 ans. Voilà, et qu'ils ont vécu ce qu'aucun enfant français ne vit.
C'est ça.
Voilà, à traverser la mer, à traverser l'Espagne ou l'Afrique. Enfin, en tout cas, ils ont vraiment un gros bagage sur le dos, donc ils ont besoin de se reposer. Et puis...
Oui, ils sont fatigués.
C'est ça.
Ils sont fatigués,
c'est sûr.
C'est quand même des sas de décompression, hein, ces moments dans des familles. Quoi.
Oui, oui.
C'est pour ça que c'est très important.
C'est ça. Ouais. En fait, ils sont beaucoup suivis aussi médicalement. Ce qui est aussi très, très, très rassurant pour nous, enfin pour moi, c'était de savoir qu'ils étaient en lien. Toute la prise en charge, que ce soit administrative ou bien médicale, elle se fait en dehors de moi, par plusieurs associations. Et du coup, moi, je suis complètement libérée de ça. Donc, au bout d'une semaine, Ilia m'a dit, mais maman, il faut qu'il reste. Et je lui ai dit, écoute, très bien. Et puis du coup, en fait, on n'a jamais dit vraiment, on a dit à l'association, écoutez, non, c'est bon, on est d'accord, il reste. On ne s'est pas donné de délai. Moi, j'avais cette liberté qui m'a accompagnée pendant tout ce temps de me dire, j'arrête quand je veux. Si jamais, j'ai plus envie ou quoi, j'ai la liberté d'arrêter, sachant qu'il serait pris en charge par d'autres. Donc, tu n'as pas la culpabilité de te dire, je les laisse retourner sous le périph' à Porte des Lilas, parce que ça, ça aurait été impossible. Voilà. Et finalement, ils sont restés jusqu'à ce qu'ils soient pris en charge par l'ASE.
C'est 3 mois après l'arrivée chez vous, hein, c'est ça. Donc les autorités françaises les ont reconnus comme vraiment mineurs.
Voilà.
C'est-à-dire qu'après, il y a une enquête et ils ont été reconnus mineurs.
Voilà.
Et donc, ils ont été pris en charge par l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance, hein, pour les téléspectateurs qui ne savent pas. Et donc, ils ont dû quitter la maison. Mais ça a dû être terrible après 3 mois.
Alors,
parce qu'on s'attache, comme dirait l'autre.
Ah ben ouais, tout à fait. Alors, surtout que ça a été à chaque fois très brutal, puisque moi, comme je vous dis, je ne suivais pas vraiment le processus administratif. Et le premier, ça a été Moussa. Le jugement, un jour, et le lendemain, je pars, quoi. Et en plus, Moussa, il partait dans les Vosges.
Oh là là.
Donc, pour lui, c'était terrible, parce que c'était vraiment... il quittait le peu de liens et le peu
de repères qu'il avait.
De cocon qu'il avait. Donc, au début, il appelait très régulièrement. Il avait la voix blanche. Moi, je me sentais coupable, mais en même temps, c'est la vie.
Faire.
C'était une très bonne nouvelle.
Oui, parce
qu'à partir du moment où ils sont pris en charge par l'ASE, ça veut dire qu'ils sont évidemment
hébergés.
Ils vont
rentrer dans un cursus. Et
ils peuvent aller au lycée, parce que pour eux, c'est très important. Ils viennent là aussi beaucoup pour... essentiellement, hein, d'ailleurs, pour faire un minimum d'études qui leur permettra d'avoir un travail. Donc bon, mais ça a quand même été dur.
C'était un déchirement. Quoi.
Ah oui, oui.
On l'a vu tout à l'heure avec Moussa Mohamedi, ça s'est super bien passé. Là, on voit dans le reportage qu'avec Djibril, l'entente est au beau fixe aussi. Ça a toujours été aussi facile?
Alors, on va dire que avec Moussa Mohamedi, ça a vraiment été un coup de foudre du début. Du coup, après, vu quand même qu'on a vraiment eu du mal, mais de façon très surprenante, moi, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait autant de liens. Bon, bref. Après, il y a eu 2 autres jeunes hommes qui sont venus et qui sont restés aussi assez longtemps, d'ailleurs, 2 mois et 3 mois. Et c'était moins
affectif,
moins fusionnel,
ouais.
Mais aussi parce que c'était eux, parce que c'était nous, parce qu'on ne sait pas en fait comment ça peut se passer. Mais ça, du coup, il y en avait un des deux qui faisait un peu sa crise d'ado, donc il n'était jamais là, il retrouvait des potes dehors, et pourquoi pas.
Ouais, oui.
En fait, finalement, moi, je me suis toujours dit, je ne me mets pas de contraintes, et, Et je leur en demande assez peu, à part de respecter la maison, évidemment, de respecter les horaires, de participer, hein, voilà, puisqu'ils ne sont pas à l'hôtel.
Bien sûr.
Mais donc, c'était moins fusionnel, mais ce n'était pas désagréable. Et toujours la même confiance.
Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il est tout seul, Djibril ? Il n'y a plus cette suggestion d'avoir
Non, parce que là, maintenant, j'ai plus de chambre libre, parce que c'est la fille d'une copine qui habite là. Donc, du coup, il dort dans le salon. D'accord. Donc là, ça devient un peu compliqué.
C'est un joyeux bordel, mais ça a l'air quand même assez chouette. Hein. Alors, on vous l'avait dit tout à l'heure, on le sait, ce sont des enfants qui ont vécu des choses que jamais les enfants français n'ont vécues, donc des événements ultra traumatisants, difficiles. Vous n'avez jamais eu peur, par exemple, pour votre fils, j'ai jamais eu peur d'être agressé, parce que forcément, tout le monde va se poser cette question, mais si jamais ils me piquent de l'argent, si jamais ils agressent mes enfants, qu'ils les traumatisent.
Alors, avant, oui, c'est des choses qui ont pu me traverser, des idées, mais alors, il faut savoir, c'est pas du tout paradoxal, mais en tout cas, tous les gamins que j'ai hébergés, donc viennent d'Afrique noire, globalement, ils ont eu une éducation très stricte, souvent religieuses, parce qu'ils sont tous musulmans, enfin tous ceux que j'ai hébergés. Et du coup, ils sont beaucoup plus sages, en fait, même que les enfants français, en fait.
Oui,
c'est-à-dire que parfois, Moussa ou Djibril gronde Ilia en lui disant « Mais tu parles pas comme ça à ta maman, quoi. »
C'est vrai.
Ah oui, donc en fait, donc finalement, non, franchement, mais j'ai totale confiance. Vraiment.
Et ça s'est toujours très, très bien passé.
Oui, toujours.
Ce sont des enfants qui ont reçu quand même une éducation.
Ah, mais qui ont une éducation très stricte,
en fait. Et qui sont en France parce que, justement, ils veulent avoir la meilleure éducation possible ensuite, quoi.
Enfin, surtout, ils veulent avoir un travail. Par exemple, Djibril, il vient d'un village vraiment de la brousse. Et ses parents, enfin, en l'occurrence, son père, sa mère n'a pas les moyens de lui offrir l'école. Mmh. En fait, donc, c'est un gamin qui veut un diplôme et qui veut un travail. Et ensuite, ils aident leurs parents, de fait.
Bien sûr.
Mais en tout cas, vraiment, la confiance. Mais ils ont les clés de chez moi. Parfois, il arrive que je leur donne de l'argent pour aller faire des petites courses. Voilà, non, la confiance, j'ai jamais eu une once de doute, vraiment.
Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous et à Ilia aussi? Parce que, alors, il dit, c'est super, je joue plus tout seul.
Ouais, non mais il jouait pas non plus déjà tout seul. Mais en fait, ça nous apporte... Déjà, ça m'apporte une bonne conscience, hein, parce que, comme je vous ai dit, de voir tous les dysfonctionnements, toutes les inégalités à côté de chez soi et ne rien faire alors que tu as les moyens de le faire, tu te dis, mais il y a un truc qui ne va pas. Donc là, moi, je suis en accord avec ma conscience, c'est déjà super.
Oui.
Ensuite, je suis convaincue que plus tu es en contact avec d'autres types de cultures, de gens, de réflexes. Plus ça élargit tes chakras. Enfin, voilà,
plus ça rend heureux. Quoi,
plus ça rend heureux. Plus ça rend heureux. Et puis, y a aussi une dimension, c'est que comme je vis seule avec Ilia, le tête-à-tête, je trouve que c'est pas... Parfois, il faut ouvrir ça.
Mmh,
alors,
sûr.
Même si on n'est pas tout seul, là, on est... on est une espèce de petite communauté et du coup ça circule, c'est comme des petites fenêtres quoi.
Et vous avez des conseils à donner peut-être aux familles que votre témoignage inspire?
Alors surtout de se dire que à chaque moment on est libre. C'est-à-dire que souvent on se dit mais non, je vais pas pouvoir, il va y avoir trop de contraintes. Alors déjà d'avoir confiance, de savoir que quand tu es hébergeur, tu n'es pas tout seul. Tu as une association derrière qui vraiment est une association formidable et qui, au fond, est le fil rouge.
Bien
sûr. Toi, tu es là ponctuellement. Et de se dire qu'il ne faut pas changer sa vie. Moi, j'ai rencontré d'autres hébergeurs. Par exemple, une autre femme qui, elle, ne prend jamais les repas avec les mômes, a vraiment un mode très autonome. Donc, en fait, on fait ce qu'on veut.
Voilà, on fait ce qu'on veut et on est libre.
On est libre. Et même pour les gens, d'ailleurs, qui se disent « mais c'est une charge financière en plus », en fait, l'association propose aussi de faire les courses pour les gamins.
Wow.
Voilà, merci beaucoup à Maglone. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du podcast des maternelles que vous pouvez partager autour de vous. Demain samedi, si vous écoutez cet épisode en ce vendredi, demain samedi, épisode inédit du podcast des maternelles à propos de la dépression du postpartum, à propos du baby blues, mais donc surtout de la dépression du postpartum. Donc n'hésitez pas à écouter cet épisode. Ça nous ferait plaisir. Salut tout le monde.